Araga, dirigé par Kamar Idir, ma chronique revue de presse halal sur des sujets haram.
Salam alaikum, marakoum à Jumaat al-Haraga Nafi d'Aad Galer.
L'émission Haraga, la voix des sans-voix, des échoués de la vie, elle fait appel à la rue qui la réinterpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
Et c'est une revue de presse halal sur des sujets haram.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Haraga de Marseille. Bakhir al-Haraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18 heures, m'sa'a rabia hatta sa'a sadisa.
Bonjour à toutes et à tous. C'est Idir qui vous parle. Je ne suis pas au studio pour le moment, mais mon émission est rediffusée pour vous. Fin des Haraga. D'abord, bonne fête à tous les travailleurs en ce début du matin du 1er mai 2025. Je vais vous expliquer l'origine du 1er mai férié. Le 1er mai vient des États-Unis, mais il y a presque 140 ans. En 1886, les syndicats américains choisissent cette journée pour organiser de grandes manifestations. Plusieurs centaines de milliers de travailleurs défilent alors pour réclamer la journée du travail de 8 heures. Certaines manifestations, notamment à Chicago, ont dégénéré en violence, faisant plusieurs morts. Cette revendication est requise en France. Quelques années plus tard, l'International socialiste décide d'importer le mouvement américain en France. La première manifestation du 1er mai à Lyon en 1890, dont les cortèges, les ouvriers portent un triangle rouge à la boutonnière. Ces trois côtés symbolisent le partage du temps entre le travail, le loisir et le sommeil. Contrairement aux travailleurs américains, qu'obtiennent rapidement une réduction du temps de travail, les Français devraient attendre presque 30 ans pour la journée du 8 heures votée en 1919. Ces décennies de manifestations, marquées parfois par des événements violents entre le 1er mai dans la tradition ouvrière. C'est sous le régime de Vichy, en 1942, que le 1er mai devient férié. Le maréchal Pétain va instrumentaliser cette journée en faisant la fête du travailleur et de la concorde sociale en référence à la devise du régime « Travail, famille, patrie ». Journée disparaît immédiatement à la libération avant d'être réintroduite dans les années qui suivent et depuis le 1er mai est le seul jour férié et chômé en France. Ça signifie que les salariés ne travaillent pas, sauf dans les services qui ne peuvent pas s'arrêter, comme les hôpitaux, par exemple. Mais dans ce cas, les salariés sont payés double. Cette journée est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde, mais elle n'est pas toujours fériée. Par exemple, le Danemark et les Pays-Bas. Pays-Bas, le 1er mai, ni férié, ni chômé. Ce qui n'empêche pas des manifestations d'avoir lieu. En revanche, aux États-Unis, cette journée trouve ses origines de 1er mai pas synonyme de fête du travail. Les syndicats américains n'avaient pas apprécié à l'époque la tonalité marxiste prise par les syndicats européens. Ils ont donc décidé de célébrer la fête du travailleur à une autre date. Le Labour Day de l'autre côté de l'Atlantique se tient le 1er septembre.
Pour M. Tobun, musique à dire.
Dans la commune, c'était fête, et tous les braves travailleurs chantaient gaiement la chansonnette, buvant le vin des trois couleurs. Lorsque sur la place, un bruit d'armes, interrompant leur gai festin, vint tout à coup jeter l'alarme, avec l'ordre rompez mutin. Sans craindre la menace, les braves travailleurs, au milieu de la place, se partageaient des fleurs. Le cœur plein d'allégresse, ils chantèrent toujours la grande Marseillaise, l'hymne de nos amours. Quand aveuglés par la colère, on crie en joue lorsque soudain un soldat aperçoit sa mère défaillante sur le chemin. Non, dit-il, la face blêmie, je ne puis, non, pardonnez-moi, je ne puis retirer la vie à celle à qui mon cœur la doit. Alors plein de tendresse, l'enfant le cœur meurtri de sa mère en détresse, baisa le front pâli d'effroi presque mourante, oubliant sa douleur sous sa main caressante.
Alors, aujourd'hui, c'est le 1er mai. Alors, je suis avec...
Arthur.
Arthur. Vous venez d'où, Arthur ?
Alors, je viens de un peu partout. Moi, j'ai grandi en région parisienne. Après, ma famille est originaire de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Et ces dernières années, j'habitais sur Douarnenez, dans le Finistère. Et je suis à Marseille pour des raisons personnelles depuis fin août. C'est mon premier 1er mai à Marseille. Et finalement, sous les nuages et sous la pluie, ça me change pas trop de la Bretagne ou du Pas-de-Calais, c'est pas mal. C'est un bon climat pour moi pour faire le 1er mai.
Alors, c'est la première fois que vous faites un 1er mai à Marseille. Pour vous, c'est bizarre un peu avec devant l'église. Je sais pas si vous êtes croyant.
Ah non, je suis pas du tout croyant, non, pas du tout.
Réformée, l'église est réformée.
Voilà, ouais, c'est un peu bizarre. Je m'attendais à avoir plus de monde. Pour l'instant, c'est quand même très parsemé, il y a pas grand monde. Je sais pas si c'est le climat.
Parce qu'on est juste derrière toutes les manifs. C'est au Vieux-Port que ça se passe.
Ok, voilà, ouais. Pour le moment, même si on va retrouver du monde au Vieux-Port, pour le moment, c'est calme, quoi.
Alors, vous êtes deux dans quelle partie ? Vous faites quoi dans la vie, vous ?
Alors, moi, je travaille pour une ressourcerie à Marseille, une ressourcerie qui est à deux quartiers, dans le quartier de Blancard. Voilà. Et moi, à titre perso, je suis membre de l'organisation communiste libertaire. Alors c'est un espèce de petit groupuscule majoritairement de vieux 68ards. Je suis plutôt la nouvelle génération alors que j'ai 35 ans. Voilà. Et on édite un journal qui s'appelle Courant Alternatif, qui est un mensuel et qui est assez reconnu pour la dimension sur les questions ouvrières et sur les questions internationales.
Alors, pour vous, comment ça fonctionne exactement ce parti, ce mouvement ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont remplacé ?
Alors c'est pas un parti, c'est vraiment une organisation. On est mouvementiste, donc ça veut dire qu'on se reconnaît dans les mouvements sociaux, que la lutte des classes c'est pas un vain mot pour nous. La question ouvrière, les mouvements ouvriers, voilà. Donc voilà, on est mouvementiste. On pense que le mouvement social est la base de la future, d'une potentielle révolution sociale. Quoi.
Alors, vous m'avez parlé de Douarnenez, vous habitez Douarnenez, non? C'est...
J'habitais Douarnenez.
Alors j'imagine qu'il faut passer par le Festival des films documentaires quand même.
Oui, bien sûr.
Chaque année.
Alors moi, je n'y ai jamais participé à titre perso, mais j'ai participé. Enfin, j'ai gravité autour. Je connais du monde qui travaille au niveau du festival. Et puis j'étais sur place pendant le festival. Moi, j'ai suivi de loin parce que j'ai une famille, j'avais une famille là-bas et que bon, des fois, c'était pas toujours pratique avec un jeune enfant d'aller au festival, quoi. Et donc, c'est plus mon ex-compagne qui participait, qui elle est dans le milieu de l'audiovisuel, quoi.
Alors, pour la première fois, vous allez découvrir le 1er mai à Marseille, c'est ça?
Exactement. Bah, je le découvre déjà, voilà. C'est pas ma première manif à Marseille parce que j'ai déjà été aux manifs Palestine et puis.
J'ai dit 1er mai.
Oui, bien sûr. Mais là, c'est mon premier 1er mai, ouais. On va voir, ouais. Voilà.
Vous participez aussi aux manifs palestiniens?
Ouais. Alors là, ça fait un petit moment que j'ai pas pu y aller, mais les premières en octobre, enfin avant Noël, là, je les ai quasiment toutes faites, quoi.
Alors, comment vous trouvez cette guerre? Les gens, pas mal qui disent des conflits, mais c'est pas un conflit, c'est une guerre, c'est un massacre, c'est quand même.
Ah oui, c'est clairement une guerre qui est clairement assumée par l'Occident, et là la La tournure que ça prend, c'est que c'est pas prêt, malheureusement pas prêt d'être terminé, quoi. Et que l'idée est pas que ça se termine. Ils vont soutenir la politique de Benjamin Netanyahou jusqu'au bout, parce qu'ils peuvent pas se détacher de ce mec-là pour le moment, quoi.
Alors on est juste derrière le camion de LFI,
ouais.
Avec ça son nom. Il fête le 1er mai. Comment vous trouvez les sorties de Bompard, de, je sais pas si,
alors,
de Mélenchon, de...
Je les ai pas particulièrement trop suivis les sorties. Moi, je sais globalement leur position. Moi, je me reconnais pas dans la position politique de LFI parce que pour moi, il y a rien de révolutionnaire là-dedans. Par contre, ce qui n'empêche pas de trouver en fait l'opprobre qui est mise par rapport à leur position pro-palestinienne. D'être solidaire par rapport à eux sur ce point de vue-là, parce que je trouve que leur position par rapport à la question palestinienne n'a rien de radical à mes yeux, et malgré ça, comme c'est la seule position qui est publique et médiatique au niveau des différents partis politiques qu'on trouve dans l'environnement politique français, voilà, c'est assez... ils prennent tout, c'est eux qui prennent pour tout le monde, et, ouais. Voilà, et ça, moi, je suis pas fan du tout, quoi. Tu vois.
Et là, il y a le Parti communiste, quand même, qui l'a boycotté carrément.
Oui, le Parti communiste, ils sont c'est la vieille garde. Et encore une fois, je différencie la base les militants de base que des directions de parti. Hein. J'ai des très bons amis qui sont militants de base au PC ou à LFI et qui ne connaissent pas du tout dans les lignes des directions de parti. Les antennes locales, il peut y avoir des gens extrêmement bien à la base. Mais c'est comme dans les syndicats d'ailleurs. Hein. Ouais. Souvent, la base. Et pas du tout significatif représente pas du tout pas du tout le même discours que ce que les directions syndicales, les bureaucraties peuvent dire au niveau public, quoi. Donc le positionnement de la direction du PCF ne m'étonne absolument pas, et en fait vu la tête de liste qu'ils ont, en fait et vu comment il est suivi, en fait vraiment c'est pas une surprise.
Il n'y a pas photo.
Hein. Ah ouais, il n'y a pas photo. Ouais.
Il y a les jeunes communistes révolutionnaires qui montent en puissance, ils sont avec la Palestine tout le temps. C'est des jeunes qui sont vraiment, que je les trouve pas mal. Est-ce que pour vous c'est une relève, ils peuvent changer un peu les données? Parce que les jeunes maintenant, ils arrivent en force.
Alors moi, je trouve que c'est toujours bien quand il y a des jeunes. J'y étais encore dans les jeunes il y a peu de temps. Je ne sais pas si je fais encore partie des jeunes, ça dépend où on se place.
35 ans, vous êtes encore jeune. Hein.
Voilà, ouais. Mais moi, je trouve que du moment qu'il y a des débats, en fait, le principal est qu'il y ait des débats, qu'on puisse discuter sans se taper dessus. Le principal est que on puisse avoir des débats et que la jeunesse qui est... Moi, pour celles que je peux côtoyer, assez souvent dépolitisées, si la jeunesse se questionne, peu importe le parti politique, l'association, l'organisation dans laquelle ils sont, se questionnent sur des questions politiques, internationales, révolutionnaires ou autres. Moi, je trouve toujours ça positif. Après, qu'on ne soit pas d'accord avec les positions à la marge ou même en plus en profondeur, ça ne me pose aucun problème du moment qu'on peut en débattre.
Alors comment vous trouvez ce 1er mai? Je ne parle pas du nombre, ouais. Que c'est un autre.
Ah oui, alors encore une fois, moi c'est mon premier 1er mai à Marseille. Globalement, les 1er mai, moi c'est des manifs où je sais que ça va être tranquille. C'est un peu le... Alors quand il y a un gros mouvement social ces derniers temps, le 1er mai c'est un petit peu le baroud d'honneur. L'année dernière, c'était vraiment... Moi j'ai fait la manif à Quimper l'année dernière, ouais. C'était une chouette manif. Parce qu'il y avait du monde, mais ça sentait vraiment le baroud d'honneur. On a fait quelques petites actions de collage sur le parcours de la manif, mais c'était symbolique. On sentait que de toute façon, on avait perdu la lutte. Ce que les syndicats ne n'assumaient pas en fait. C'était pas du tout, pour eux, c'était pas perdu. Ils communiquaient, on peut encore gagner, on peut encore gagner. Et c'était déjà perdu depuis quelques mois. Mais ça n'empêche pas qu'il faut être présent parce que c'est aussi des lieux de rencontre, c'est des lieux où ça peut permettre de rediscuter, encore de débattre au sein du cortège, au sein des manifestations. Voilà, moi là pour le moment c'est vrai que je trouve ça très très plan-plan.
Pour les chômeurs, je vais dire, ouais. Cette année ça va être plus grave pour eux par rapport aux demandeurs d'emploi. Il y a des lois qui avec le
ça, c'est...
des lois grave.
Ouais, très très grave. Mais en fait, c'était attendu d'une certaine manière. Là, le rouleau compresseur est parti et en fait, il est pas prêt de s'arrêter tant qu'ils sont là. Et on sait pas du tout qui sera là après nous, après eux plutôt. Bah, pourquoi après nous, après eux. Mais tel que c'est parti, ça sera dans la continuité de ce qui est en train de se faire. C'est sûr que pour les chômeurs, là, c'est extrêmement dramatique. Et les chômeurs, les anciens, tous les gens qui sont dans la galère, tout le prolétariat de manière générale en prend plein la gueule et ils n'ont pas fini d'en prendre plein la gueule. Et ce qui est assez dramatique pour moi, c'est qu'il y a plein de mouvements politiques, associations diverses qui se mobilisent sur pas mal de sujets, mais la question sociale, la question du travail est très très peu remis en question, est très très peu débattue. Alors que le capitalisme, la question du travail, c'est la question centrale du capitalisme. Sans travail, le capitalisme n'existe pas.
Bien sûr, on est là au 1er mai pour fêter 1er mai, sans parler de l'emploi.
Complètement, là. Bon. Alors, je dis pas qu'il faut pas parler de la Palestine. Je trouve ça très très bien qu'il y a une grosse mobilisation par rapport à la Palestine et par rapport à la lutte contre la guerre de manière générale, qui est un peu le mot d'ordre de ce 1er mai. Mais la question du travail, qui est aussi conjointe à la question de la guerre, d'une certaine manière, est totalement absente. On parle de la guerre sans parler de la question du travail qui va avec. Pour moi, pareil, sans travail, pas de guerre, parce qu'il n'y a pas d'usine qui tourne, il n'y a pas d'armement, pas de guerre sans armement. Et il y a toutes ces usines d'armement dont la France est quand même un gros promoteur. La question du travail est totalement absente ou secondaire ou périphérique. Et moi, ça me pose pas mal de problèmes. Et quand j'en discute autour de moi avec différents camarades ou plus ou moins proches politiquement, je fais des fois partie un peu des ovnis dans la génération trentenaire actuelle, trentenaire-quarantenaire. C'est plutôt encore un truc, on me dit « Ah ouais, mais ça, c'est la vieille garde, c'est les soixantenaires qui parlent de ça, les vieux 68-ards qui sont restés sur les questions de mouvement ouvrier, il n'y a que ça qui... » Voilà. Moi, je continue à croire que la question du travail, c'est la question centrale qui regroupe toutes les questions, finalement, de lutte contre le capitalisme.
Si vous voulez rajouter le mot de la fin.
Non, moi je suis très content d'être là. Vu que j'ai beaucoup habité à différents endroits, j'ai fait pas mal de 1er mai dans plein de villes différentes, dont Cayenne entre autres, où je pense que c'est le summum du pire 1er mai que j'ai fait là-bas parce que on manifeste avec les syndicats de flics. Ah ouais, voilà. Mais sinon c'est Ouais, c'est... Bon, y a un côté folklore du 1er mai, c'est pas une manif de lutte pour moi, c'est une manif de discussion, de débat.
Rencontrer des toujours... amis.
Exactement, et c'est toujours...
Faire une vie.
Voilà, ouais, et c'est toujours important d'y être, ça fait toujours plaisir, et on sait que c'est pas au 1er mai que la révolution se prépare, quoi, mais voilà.
Rappelez-moi votre prénom et fonction.
Ouais, bah fonction, j'ai pas vraiment de fonction, moi je suis, moi je m'appelle Arthur. J'ai fait pas mal d'études, mais j'ai très peu bossé là-dedans. Et je prends le boulot où il y en a. Et actuellement, je bosse avec pas mal de gens qui sont dans des grosses galères d'un milieu social qui est pas du tout le mien. Et c'est vraiment vraiment super intéressant. Et rien que pour ça, je regrette pas d'être venu à Marseille, même si au départ c'était pas un choix personnel, quoi.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et bon vent.
Merci beaucoup. À bientôt. Bon courage.
Kenavo.
Kenavo. Ouais.
On est là pour dire à Monsieur le Président que nous, on existe et à notre petit niveau à nous, on élève notre petite voix à nous pour dire mais non, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il veut que nous, on soit piétinés chez nous, c'est déjà le cas. Et donc non, c'est pas possible.
Hein. Par rapport à la vie là-bas, comment vivent les Calédoniens par rapport à leur vie quotidienne?
Ben, les Kanaks, c'est eux qui remplissent les prisons, c'est eux qui foutent le bordel, on leur montre toujours du doigt. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas du travail. Les Français, quand ils arrivent là-bas chez nous, ben, en fait, de bouche à oreille, ils disent à leurs cousins qui sont ici en France de venir parce qu'il y a du travail pour eux là-bas. Ouais. Mais eux, ils disent toujours, on va d'abord laisser l'emploi local d'abord quand ils sont compris. Mais en fait, officieusement, c'est pas du tout le cas parce qu'on fait venir des gens pour travailler chez nous. Et les jeunes qui arrivent là-bas chez nous avec des diplômes, mais en fait, on les retrouve au champ, ou à picoler, ou à faire des travails qui ne vont pas avec leurs diplômes, quoi. C'est ça le problème.
Alors disons-le, on vit dans une colonie, on est colonisé.
Ben, ça n'a jamais arrêté, en fait. On vit toujours sous le joug de l'État français.
C'est le néocolonialisme, quoi.
Exactement, c'est ça.
Et quelle solution?
Je sais pas, il faut demander aux jeunes parce que c'est eux. Voilà, il faut leur demander eux parce que c'est eux qui arrivent du pays. Donc peut-être qu'il faut leur donner la parole à eux aussi. Voilà.
Comment ils s'appellent?
Josh, Wame, Watsoch, et les jeunes qui viennent juste arriver. Et ils sont étudiants eux aussi, donc il faut leur laisser la parole.
Très bien.
Les Français, quand ils arrivent là-bas chez nous, ben en fait, de bouche à oreille, ils disent à leurs cousins qui sont ici en France de venir parce qu'il y a du travail pour eux là-bas. Ouais. Mais eux, ils disent toujours on va d'abord laisser l'emploi local d'abord quand ils sont compris. Mais en fait, officieusement, c'est pas du tout le cas parce qu'on fait venir des gens pour travailler chez nous et les jeunes qui arrivent là-bas chez nous avec des diplômes, ben en fait, on les retrouve au champ ou à picoler ou à faire des travails qui vont pas avec leur diplôme, quoi. C'est ça le problème.
Alors disons-le, on vit dans une colonie, on est colonisé.
Ben, ça n'a jamais arrêté, en fait. On vit toujours sous le joug de l'État français.
C'est le néocolonialisme, quoi.
Exactement, c'est ça.
Et quelle solution?
Je sais pas, il faut demander aux jeunes parce que c'est eux.
Ici,
voilà, il faut leur demander eux parce que c'est eux qui arrivent du pays. Donc peut-être qu'il faut leur donner la parole à eux aussi. Voilà.
Comment ils s'appellent?
Josh, Wame, Watsoch, et les jeunes qui viennent juste arriver. Et ils sont étudiants eux aussi, donc il faut leur laisser la parole.
Très bien.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne.
ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandingue. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde.
Alors, Lyamine, ça fait plaisir d'entendre quand même quelqu'un qui parle des tireurs sénégalais, parce que eux aussi, je crois qu'ils ont couvert, hein, pas en 1945, mais peut-être bien avant.
Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on parle de la capitulation, bien sûr, donc de l'Allemagne face aux alliés, hein, qui ont été les États-Unis, donc la Grande-Bretagne, la France, voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai trouvé la nécessité de parler d'un crime colonial dont on ne parle pas assez. Donc, c'est le crime, les massacres du camp de Tcharoï. Camp de Tcharoï. Tcharoï, c'est une localité qui se trouve à Dakar, dans la banlieue dakaroise, donc au Sénégal, où les tirailleurs sénégalais qui se sont beaucoup battus auprès de la France ont tout simplement été massacrés par le régime français à leur retour au pays, parce que tout simplement la France ne voulait pas leur payer donc leur dû. Voilà, parce qu'ils étaient captifs, certains ont perdu des jambes, un œil, tout ça, ils avaient donc leur dû. Les Français blancs, les Français ont été payés, mais les tirailleurs sénégalais n'ont pas été payés. Et bien sûr, je précise que dans les tirailleurs sénégalais, il y avait les Maliens, il y avait les Guinéens, les Ivoiriens, etc. Et donc, au moment où ils demandaient tout simplement à rentrer dans leurs frais, donc le général de l'époque, Dagnan, qui était un vichiste donc, au Sénégal, a tout simplement les a tout simplement rassemblés un matin, donc c'était le matin du 1er décembre 1944 à 9h35, pour tout simplement les massacrer. Donc il y a eu au moins 400 morts et les historiens, en tout cas occidentaux français je dirais, ont essayé de maquiller cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais que le monde entier sache que des tirailleurs sénégalais ont été massacrés après avoir combattu pour la France.
La date précise exactement?
La date précise, c'est tout simplement le 1er décembre 1944 à Dakar.
Et le dernier tirailleur, est-ce qu'il existe toujours au Sénégal? Il est vivant?
Ben, il y a effectivement, il restait un ou deux tirailleurs. Voilà, qui donc déjà la deuxième guerre, voilà, et certains n'ont jamais, jamais reçu leur pécule comme leurs homologues français. Donc ce qu'on appelle la cristallisation de la pension. Donc quand les Français, par exemple, avaient leur pension genre 1000 euros, les Sénégalais, ils avaient 50 euros. Voilà. Et donc ils ont attendu que tous les travailleurs sénégalais pratiquement meurent. Voilà, le dernier qui reste, on va dire, bon, maintenant, on va essayer de rectifier. Donc, du coup, non, je pense qu'aujourd'hui, la France doit pouvoir récupérer tout simplement cette pécule et les distribuer à leurs petits-enfants.
Alors, aujourd'hui, pour les Sénégalais, cette date de 1945, quand même, ils savent que ça existait quelque chose qui ne allait pas.
Ben oui, ils savent que ça existe, mais c'est dommage quand même qu'ils ne soient pas mobilisés. Mais je pense qu'aujourd'hui, les actes de massacre comme celui donc, du 1er décembre 1944 donc, commencent à être dans les consciences, parce qu'il y a un film d'ailleurs qui a été fait.
C'est une marmite qui...
Eh oui, ça boue, ça boue, ça boue. Voilà, et un film qui a été fait par d'ailleurs un Sénégalais qui vivait à Marseille. Voilà, donc du coup, Ousmane Sembène qui vivait à Marseille, qui était docker à Marseille, lui-même il a réalisé ce film Camp de Charonne. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire aux gens qui regardent ce film pour savoir des choses.
Bon, je sais pas. Dernière question. Le nouveau président sénégalais, qu'est-ce que vous pensez pour lui? Il est jeune.
Écoutez, on a un tout nouveau jeune président, donc Bassirou Diomaye Faye. C'est un jeune, il a 44 ans, il est anti-système. Voilà, et lui, vraiment, il porte beaucoup d'espoir dans cette jeunesse pour venir casser tous les codes et renégocier les contrats, parler avec la France, parler avec les Occidentaux, les yeux dans les yeux, avec tout simplement notre façon de faire de la politique, ce sera du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous portons beaucoup d'espoir sur cette jeunesse-là qui a envie de montrer à la France que les colons que vous aviez hier, nos présidents passés, ce n'est pas aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui.
Les élections, elles étaient quand même?
Les élections se sont très très bien passées. Ils ont été plébiscités par le peuple et ils ont gagné pratiquement à 55%.
Alors, le premier voyage du président, c'était la Mauritanie. Pourquoi?
Parce que tout simplement, il faut commencer à raffermir les liens avec les pays qui sont autour de soi. Donc, il a commencé par la Mauritanie, il a fait la Gambie, voilà. Donc, et ce sont des pays qui sont proches du Sénégal. Voilà. Donc, il faut raffermir ces liens-là avant d'aller voir les autres.
Bon courage pour le Sénégal.
Merci, mon ami.
Imaginez les tirailleurs sénégalais se sont battus pour la France, massacrés par leurs officiers simplement parce qu'ils réclamaient leur salaire. C'est ce qui s'est passé à Tiaroy en 1944 au Sénégal. Un massacre longtemps occulté par les autorités françaises et qui pose de nombreuses questions encore aujourd'hui. Novembre 1944, la France entièrement libérée par l'occupation nazie. Pour les centaines de troupes coloniales mobilisées, c'est la fin de la guerre et le retour au bercail. Le 21 novembre, plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais sont rapatriés par bateau depuis la France jusqu'à Tiaroy, au Sénégal, près de Dakar. Les soldats de ce groupe sont des anciens prisonniers de guerre. Ils ont passé leur grande partie de l'occupation dans les geôles du régime de Vichy. Les tirailleurs qui transitent par ce camp attendent leur solde. Problème, les autorités refusent de payer ce salaire. Des stéréotypes racistes qui circulent à l'époque sur le fait que les Sénégalais utiliseraient mal leur argent. Les tirailleurs refusent de quitter le camp tant qu'ils n'auront pas perçu ce qui leur est dû. Le 1er décembre 1944, le camp est encerclé par des centaines de soldats français, des automitrailleuses et même des chars. Les tirailleurs sénégalais sont rassemblés de force. Le massacre ne dure que quelques instants, mais le bilan est très lourd. Je vous laisse imaginer la fin.
Le blanchir en farine action tous les soirs. Ils vont faire un tourment dans les cités dortoirs. Opération coup de main, toujours dans le noir. Ouverture de la chasse aux jeunes et aux traînards. Et s'il n'y a pas de vrai coupable, il y a toujours les honneurs. Si tu parles de barbarie, ils perdent tous la mémoire. Le blanc girofard, le blanc girofard, le blanc girofard. Danse, danse sur la police, danse, danse sur la police. Un conseil si tu les vois, madame, ne sois pas trop bavard. N'oublie pas le bonjour, surtout évite de dire au revoir. Tu sais qu'ils ont les bombes, les chaînes, les menottes et le pétard. Les flics ont pris une norme, ils aiment bien le pinard. S'ils ont le vin joyeux, ils te mettent au placard. S'ils ont le maghrébin, tu finis sur le trottoir. Bleu blanc girofard, bleu blanc girofard, bleu blanc girofard. Danse, danse sur la police.
blanc girofard, le blanc girofard, on sort sur la Lisbonne. En cours et là, ils ne sont pas à voir. Si tu veux te défendre, tu passes à la barre. Le rapport de police ne vaut pas un dinar. Il faut témoigner, j'ai les séries de bobards. Cette justice-là est surtout mal la science des ignares et de ceux qui cachent la haine derrière le devoir. Le blanc girofard, le blanc girofard, le blanc girofard, dans
Jérémy, Katib, Oussama, Mohamed, Toufik. Ils sont porteurs de trisomie 21. Mais ils ne veulent pas entendre le mot « handicap ». Ils sont juste autrement valides. Font du sport, étudient la musique, connaissent l'amour et ont des rêves. Comme vous et moi. Jérémy, 25 ans, aujourd'hui. Il vit à Marseille avec ses parents. Il a une passion animateur radio. Katib, 26 ans. Tous sont passés par l'IME vers près. C'est bien là où nous avons passé 3 années dans ce centre. L'IME vers près accueille 122 enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans, déficit intellectuel avec troubles associés. 42 enfants ou adolescents sont accueillis en internat de semaine. Tous sont orientés par décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le 6 juin 2015, une grande fête de fin d'année a été organisée à l'IME. Ce jour-là, Katib et Jérémy ont accepté de faire un reportage pour Radio Galère. Après 3 années de formation passée et d'ateliers radiophoniques, nous vous invitons à suivre ce documentaire réalisé par Katib et Jérémy. Bonne écoute. Le thème, la fête médiévale.
À Radio Galère.
Il est beau, hein.
Ah ben merci.
Qu'est-ce que tu veux dire à Radio Galère?
Radio Galère, je connaissais déjà l'animateur, mais depuis, je ne l'ai plus revu depuis longtemps. L'animateur que j'avais vu, mais il est parti, je sais pas. Mais je pense que il y a des nouveaux animateurs.
Jamais tu n'oublies la radio.
Il se caresse pas,
c'est une bonne chose. Hein.
Jamais. Il n'y a pas d'attention.
Il n'y a pas de rapport tactile. Hein.
Ouais.
Hein. Il n'y a pas ni de rapport affectueux.
Ouais.
L'oiseau, il voit en toi un outil.
Voilà. Il voit en nous quoi?
Un outil, c'est un outil. Et après, tu développes la complicité de l'équipage, je te disais, quand tu as le chien, l'oiseau et toi.
Ouais.
Voilà. Après, tout se met en route et là, tu peux chasser.
c'est dingue. C'est, on n'ose pas le regarder dans les yeux. On a l'impression que dans le regard, il... Ah ouais, ah ouais. Ah, tu vois, il me fait flipper, là. Tiens, je te le rends. Comment je le mets? Je le remets sous le perchoir. Waouh, écoute, c'est un... Waouh, c'est fou. Hein. Merci beaucoup.
C'est bon, tu as gagné. C'est pas ça que je veux entendre, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, je vais te poser une question. Viens là.
Est-ce que c'est de la
des citrons.
Bon, deuxième épreuve. Les autres, vous avez rien entendu, hein. Nettoyage des esprits. C'est bon. Allez. Tu as des cailloux. Et moi, j'ai des cailloux. Il y a un petit bateau sur l'eau. Chacune notre tour, on va poser un caillou. Celle qui fait couler le bateau a perdu. Si tu gagnes, tu as le droit de prendre une petite bourse. À découvrir ce qu'il y a dans la potion. Si tu découvres un ingrédient, tu as le droit de passer à la deuxième épreuve. Je le dis dans l'oreille pour pas que les autres enfants entendent si les autres ils ont pas joué. Tu sais pas? Trésor dedans. D'accord? C'est parti. Un conseil, délicatesse. À toi. Et j'ai perdu. Tu as gagné une petite bourse. Viens la choisir.
À moi. La midi, tu peux faire.
Ouais. Laquelle tu veux? Bon, elles sont toutes pareilles. Hein. Elles se ferment bien. Ouais, il y a des petits trésors. Eh oui, tu l'as vu? J'étais tombée sur celle-là. C'est une chance, c'est une chance. Voilà, bravo Jeanne.
Tu peux le faire?
Tu veux le faire? Allez.
Quatre chanteurs, vos quatre micros et en avant la compo.
Merci beaucoup.
Ouais, c'est parti.
Let's go, let's go.
Pasteur Paki, aujourd'hui, Pasteur Lacte, elle est ici, Pasteur Paki, Kepi, Asuma, Pasteur Paki, Papa, et un dog, le Gisela, et Sengalès, et Sengalès, qui est parti, qui est aujourd'hui, Pasteur Lacte, Pasteur Paki, Pasteur Lacte, Pasteur Kessi, Pasteur Lenepo, Pasteur Kessi, Pasteur Galabi, et Galabi, Galabi, et Galabi, et Jusi, et la Terre Sorino.
Ainda?
20 minutos.
Vai buscar.
Toma regra.
Toma regra.
Tchaca. Tchaca. Tchaca.
Tchaca.
Tchaca. Tchaca. Tchaca.
Você vai passar rapidinho.
É. Vai que eu passo mesmo.
É voluntation, né? Fica lá.
Cara do samba.
Samba reggae. Joga aí.
Todo dia o dente, né? Todo dia o dente. Tá me esperando com o dente.
On est au chêne. Ouais.
T'es contente ?
Ouais.
Allez, Ibrahim. Allez, Ibrahim.
Corinne, Audrey, Barna, Jean-Pierre, Marc, Joseph, Jean-Paul, Philippe, Alessandre.
C'est tes amis ?
Oui. Oui. Un garçon, papa.
Ibrahim, tu connais pas qui c'est Ibrahim ?
Oh, il est là.
Ibrahim Niaz. Non, Brahim.
Oui, moi, je m'appelle Moussa Papra. Et donc, je suis résident, oui. Résident de Forêt des Chênes.
Allez, en résident des Chênes.
Oui, c'est moi. Vous êtes 8 moniteurs, mon 24 heures. Et je prends dans. Et je fais la salle. La salle ici, à la scène. Et pour nous, le reste des résidents. Après le résident, je fais de. Je jambé, je chante, il y a tout. Moussa Ali, elle est là. Moussa batteur. Batteur.
Non, c'est.
Le batteur et le chanteur.
Et le batterim.
Le batterim et le chanteur.
Ouais. Les deux, j'ai chanteuse. Joseph, moi, c'est parce que je suis là et je sente. Oui, je sente, je sente, je sente aussi. Oui, oui. Merci. Je n'ai pas l'idée, tout à bout de ce que j'aime. C'est Johnny Hallyday, Johnny Hallyday.
Si tu veux.
Rappelle-moi ton nom.
Joseph. Joseph.
Joseph, je vous laisse vous préparer parce que c'est...
Tout à fait, tout à fait.
Vous préparer.
C'est gentil.
Et monsieur,
c'est le Louis. Donc Louis, je viens du foyer des chaînes, je suis éducateur là-bas. Donc elle est venue aujourd'hui faire une prestation avec un groupe de musique qui a été constitué au foyer.
J'espère qu'on va voir du lourd. Hein.
Voilà, mais on va essayer en tout cas.
Bah oui.
Merci. Merci.
D'ailleurs, toi. J'ai fait ça là, comme ça. Je suis pas...
On va la détruire, la scène.
Ah ouais. Là, elle est plus,
ouais,
là,
c'est...
ça y est, là.
Ah, ça y est,
ah,
déjà, voilà.
Tu vois ? Ça y est, on est trop fort pour eux, ça y est. Ah, ils sont loin. Nous, on est plus haut, faut regarder tout en haut.
Eh oui. Là, on regarde.
Ah, quand t'es en amour,
on
hein.
Est trop fort, hein.
On est chaud, quand t'es, hein.
Oui. Heureusement que tu es tombé avec Frédéric.
Ouais. C'est mon prof, voilà. Ouais. Mon prof,
Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses de moi ?
Dans ça, ouais.
Bah, qu'est-ce que tu en penses de Frédéric ?
Tu penses quoi de moi ?
Je sais pas.
Tu connais Frédéric ?
Ouais. Quentin, t'es un Normand, toi.
Je sais pas si c'est un Allemand ou... Son nom, c'est Alvart.
C'est un Normand.
On s'est toujours posé la question, mais bon.
Il vient de Normandie.
Peut-être, sûrement. Hein. Voilà, très bien. Le mec,
il faudrait... Il faudrait qu'ils passent dans Sexy Dance, les deux.
Ben oui.
T'inquiète, mec, on va arriver comme ça. Non, ce que je voulais faire, c'était ça, quand t'es... Moi, j'étais là...
Ouais, mais je sais, je t'ai vu. Je t'ai vu à un moment donné, tu étais en train de... Ça allait partir, mais c'était trop loin. Ah là 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 là.
J'ai plus de force, je suis là. Il est fatigué un peu.
J'ai l'impression.
Il est pêcheur, il est fatigué.
On envoie là, le SAMU.
C'est ça. Appelez les pompiers, au moins dire.
Le les SAMU, urgences. Les pompiers, tout ce que vous voulez.
Attends, on va voir.
Bon, merci les jeunes, hein. Et bon courage.
Ouais, à vous aussi, à vous aussi.
Voilà, c'est ça. En fait, non, je suis venu en fait parce que j'avais préparé une petite chorégraphie avec Quentin. Et du coup, là, tout à l'heure, on est passé et tout. Et voilà, les gens, ils ont kiffé, c'était pas mal. J'ai préparé, en fait, Quentin, je l'ai entraîné un peu à danser. Bon, avant, il dansait souvent le coupé, des trucs comme ça. Et moi, je l'ai perfectionné parce que je fais du breakdance. Ça fait longtemps, ça fait maintenant presque 2 ans.
C'est ce que j'ai vu.
Voilà, c'est ça. Ça va, franchement, ça va, ils assurent. Franchement, bien. Ouais, voilà, ils assurent. Franchement, c'est bien. Là, ouais, je compte rester encore un peu. Si ça danse un peu après, à la fin, je pars encore un peu en freestyle. Oui, c'est-à-dire. Ah oui, peut-être on verra. Peut-être que je vais organiser. Par contre, ça sera
bien, mais
par contre, ça sera pas que moi et Quentin, ça sera moi, Quentin et Katib, peut-être.
Très bien.
Et voilà. Ouais, il a la patate, il a envie d'apprendre. Il va envie de lui apprendre, donc du coup.
Il s'est gavé, hein.
Voilà.
Il s'est gavé. Il a bien dansé, il est trop fort, lui. Son frère aussi, je le connais, il est gentil. Il est gentil, il danse bien. Lui, je le connais d'ici et lui de maintenant.
Voilà, c'est ça.
Maintenant, t'as vu, t'as découvert qui ?
Il est fort, hein.
Ah,
c'est ça. J'aimerais bien, franchement, si je progresse, j'aimerais bien participer au Red Bull BC One. C'est la plus grosse compétition du monde. Et franchement,
c'est
loin. Ouais. Il existe toujours
les règles.
Les plus anciens.
Ouais, ça existe depuis longtemps, mais bon. Ça progresse.
Le breakdance, c'est important. Ouais. C'est quoi exactement?
Ben en fait, moi je qualifierais ça de hip-hop, mais au sol. C'est-à-dire que ça consiste à faire des figures, des freezes. C'est-à-dire, en fait, le terme freeze, ça vient du terme américain glacé. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une figure et qu'on arrête de bouger. Voilà. C'est après, voilà.
Ce qui est statique.
Voilà, c'est ça. Statique et que ça tourne. Et au sol, c'est ça. C'est ça.
Tout ce qui est par terre.
C'est du lourd, quoi. C'est ça.
Tout ce qui est par terre.
C'est ça.
T'aimes ça, toi ?
Oui, j'ai déjà vu. Vous connaissez Sexy Dance ?
Ah ouais.
Tu connais Sexy Dance ?
C'est un film. Fred. Frédéric Sauriac. Ouais, c'est. Non, ouais, tu me disais le Sexy Dance, c'est un film de danse.
Ouais.
Et il y a des bons danseurs à l'intérieur.
C'est ça.
C'est toi l'animateur, c'est
pas moi. Ouais, c'est pas moi l'animateur.
Bon, Frédéric, bon courage.
Ok, bah, merci. Bon courage.
J'espère aussi qu'on va se reverra une autre fois.
Peut-être l'année prochaine.
Voilà, bien, pourquoi pas.
Ok.
Merci.
Ça va, de rien.
Savoir si elle passe.
Oui. Oui, moi j'ai regardé, c'était bien.
Vous voulez être à peu près comme elle ou...
Moi, pas trop, parce que j'aime bien chanter et en plus, des fois, comme chez moi, j'ai un piano. Oui, à la maison, ça fait que je peux faire de l'instrument, et voilà. Et je suis habituée.
Ouais, nous aussi, on chante. moi, j'ai plusieurs instruments. J'ai d'ailleurs trop. J'ai un piano,
J'ai un violon et d'autres instruments, par exemple des guitares, mais ça appartient à mon père, après je l'utilise pas trop.
Ah, moi, oui.
Mais moi j'ai commencé, j'ai commencé à 4 ans parce que je suis la fille du chef. Et moi j'ai commencé à 4 ans, enfin dès que j'ai pu chanter, et je continue toujours. Non, le violon.
Le violon,
tu joues tous les instruments?
Non, pas tout. Plusieurs, mais pas tout.
Moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que quand on sait faire du violon, quand c'est le maîtriser, on peut faire tous les autres instruments. Voilà. Enfin, je pense que c'est
bien
ça.
Bien sûr. Eh bien, je vous souhaite bon courage. J'espère vous rencontrer dans un grand... au Zénith.
Ça va?
L'Olympia, non?
Ça existe, les Zéniths de Marseille?
Non, pas de Marseille, de Paris. Non,
ça, ah oui, de Paris.
Ça, c'est le Dôme.
Le Dôme.
Ah ouais, le Dôme. À Paris? Ouais.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Linda.
Et toi?
Nissa.
Enfin, merci.
Nissa.
Merci beaucoup.
J'ai chanté Génération Goldman. Lady Melody est formidable.
Et vous?
Moi, j'ai pas chanté.
Vous avez fait quel rôle?
Mais j'ai pas chanté, je vais juste arriver en voiture. Non, parce que moi, le soir, moi, comment je m'entraîne à faire des karaokés et faire des paroles aussi?
Très bien.
Moi aussi, dans ce sens, je m'entraîne souvent.
Et pourquoi t'as pas chanté aujourd'hui?
Mais je sais pas, parce que comme il y avait du monde et comme je n'ai pas pu chanter, donc du coup, ils sont...
Vous étiez dans le groupe?
Oui.
Lara Bondalou?
Oui.
Ah, je vous ai reconnu là.
Et c'est vos copines?
Enfin, ça, c'est ma cousine et ça, c'est la copine à ma cousine.
Vous, à quel âge vous êtes?
Restez
avec vers 8 ans. Ouais, 8 ans. 8 ans et demi. Enfin, ça va. Au début, je connaissais pas trop, mais après, ensuite, je me suis habituée.
Mais l'arabe andalou, comment vous l'avez découvert?
Mon papa, il nous a un peu dirigé vers la musique et ensuite...
Et à quel âge vous avez commencé?
Moi, j'ai commencé à 4 ans.
À 4 ans? Et vous, à 5 ans?
Non, 8 ans. Parce qu'en fait, au début, quand mon père, il nous a... Enfin, je connais pas comment ils se sont rencontrés, son père. Et ensuite, je suis allée... Elle est petite. Ensuite, elle est venue juste après. Et après, enfin...
Non, pas ça.
Enfin, ben voilà. En tout cas...
Est-ce que vous travaillez la voix aussi?
Oui.
Chanteuse, vous aimez une chanteuse algérienne ou qui a une belle voix?
Vous me dites... Combien de fois?
On peut voir. Alors, les voleries, eux, ont des oiseaux qui font du spectacle. Donc, ils sont plus habitués au monde que les miens. Hein, les mois, deux fois par an, on fait une sortie, comme ça. Mais tout le reste de l'année, ils sont à la chasse. Voilà.
D'accord.
Donc... C'est pour ça qu'elle est un peu, bon, elle est un peu affolée, un peu stressée. Voilà.
Comment on dit, vous êtes fauconnier ou comment?
Moi, je suis fauconnier amateur. Donc c'est... En fait, la fauconnerie, il y a des professionnels mais qui s'occupent de l'effarouchement. Et les fauconniers amateurs souvent font de la chasse au vol. Et après, vous avez les fauconniers qui font de la démonstration, bon, qui font de la volerie. Mais en fait, la fauconnerie, c'est l'art de chasser une proie avec un oiseau, avec un rapace. Donc nous, on est véritablement des fauconniers. Les autres sont plutôt des démonstrateurs d'animaux.
C'est pour ça que je voulais, j'ai oublié le terme là.
Je reviens dessus. Les fauconniers, ce sont des gens qui chassent. Et les autres, ce sont des démonstrateurs d'animaux qui utilisent la technique de la fauconnerie. Pareil, mais la finalité n'est pas la même. Moi, la finalité, c'est que mon oiseau attrape des proies. Hein?
C'est par tradition.
C'est traditionnel, oui. Ouais.
C'est comme les émirs du golf.
Alors les émirs du golf, ce sont des fauconniers, de toute façon. Ce sont des fauconniers.
Je sais pas.
Ce sont des fauconniers. Hein.
Et ici, là, ça fait pas un petit peu... Il n'est pas affolé un peu?
Là, oui. Ben là, il est affolé parce que c'est justement un oiseau de chasse.
Ah, ouais.
Et il sort que pour chasser. Donc, voir autant de monde, ben... Là, on voit l'oiseau, et ben, il est un peu paniqué, quoi.
Ouais. Et il a quel âge?
Celui-là, il a 3 ans.
3 ans.
Et en captivité, on peut les garder au moins 20 ans. J'en ai un autre qui a 20 ans. Mais à bout de 20 ans, bon, l'oiseau ne vole presque plus, quoi. Il est vieux.
Il est en retraite.
Exactement.
Et vous faites ça depuis longtemps ou...
Moi, depuis que je suis gamin. De l'âge de 10 ans, quoi. Voilà.
Et ça vous plaît de...
Ah, bien sûr, sinon, c'est une passion. C'est une passion, c'est une passion. Je ne peux pas en faire mon métier, mais si je pouvais, je ferais mon métier.
Et ici, vous êtes installé sur les Bouches-du-Rhône ou ailleurs?
Alors, on est en fait dans la région Provence, on est une vingtaine de fauconniers pratiquants.
C'est une religion.
C'est une religion, on rentre en sacerdoce. Hein. Et au niveau national, on est à peu près 200. C'est pas nombreux. Mais bon, on fait partie, bon, la fauconnerie française, bon, sans se vanter, fait partie de l'élite de la fauconnerie. Quoi. Hein, on a de très grands fauconniers, on a des oiseaux qui volent très bien. Et d'ailleurs, chaque année, bon, les Qataris ou les viennent on est invités par eux parce qu'ils veulent voir nos oiseaux. Quoi.
Et en même temps, les initier à la...
Bah ouais, ils veulent voir. Bah, on va au Maroc, on va un peu chez eux. Parce qu'ils bon, savent très bien qu'on a des oiseaux qui volent. Ouais, ouais.
Bon, je vous laisse avec.
Super. On ne met pas la main, hein.
Tu ne mets pas la main, tu le regardes, c'est tout. Oh là là, il nous regarde lui aussi. C'est tout. Il est impressionnant.
Ah, ça fait plaisir, en plus il donne des cours, c'est super. Ok.
Et on a un plasticien qui initie des projets qui sont développés après par des animateurs avec les enfants et qui nous permettent de concevoir la décoration du festival. Excusez-moi. Voilà, en 7 ans, on a travaillé sur 3 thématiques. Une première thématique qui s'appelait Autoportrait d'une ville, où on a appris aux habitants à peindre eux-mêmes leur autoportrait à partir d'une photographie. Et on a pu réaliser comme ça près de 700 portraits. Pendant 2 ans, on a travaillé aussi sur la notion d'itinérance sur les 5 continents, avec des représentations graphiques représentant le monde. Et cette année, on a travaillé dans les écoles sur des arts plastiques, mais sur la tonalité du cirque, parce que le cirque était invité en priorité cette année sur le festival.
Alors, on revient au chanteur. Qui sont ces Mariam Salah et Zaid Hamdan? Le brûlot électro-oriental, c'est quoi exactement?
Électro-oriental. Alors, Zaid Hamdan, c'est un artiste libanais qui développe des projets depuis une quinzaine d'années, qui vient vraiment de l'underground et qui a créé son propre label. À l'origine, il était à la tête du groupe Subkills. Et il a fait une création avec une chanteuse égyptienne qui s'appelle Mariam Salah. Qui a pu d'ailleurs qui a joué à Marseille l'année passée au festival Mimi. Et c'est un artiste que nous on a eu l'occasion d'accueillir. Zaid Hamdan est venu avec nous en Guinée sur un festival à Conakry et à Beni Abbès sur les nuits de la Saoura. C'est un artiste avec lequel on aime travailler. Et son nouveau projet avec Mariam Salah nous plaisait beaucoup et on a souhaité l'inviter.
Alors, les nuits métisses se déplacent alors, c'est pas qu'en France.
Ben, comme je disais, en 22 ans, nous, on aime bien travailler en lien de manière régulière avec certains territoires. Et on a développé des projets sur le long terme avec Conakry et avec Beni Abbès. Voilà, à Conakry, à travers le soutien à Bassissoko, on a travaillé sur un projet de centre culturel et la création d'un festival, le festival Cora et Cordes, qui en est maintenant à sa 12e édition et qui est porté par Bassissoko, qui a lieu tous les ans au mois de mars. Et on a essayé de faire un peu le même projet en Algérie et avec...
Vous êtes algérien d'origine?
D'origine algérienne, oui.
Vous aimez le chabi, ça c'est...
Le chabi, bon, je suis né dedans, moi.
Je vous ai vu tout à l'heure danser.
Eh bien, pour inviter les filles et les enfants hein, de l'IME, c'est pour eux. Donc on voulait les faire danser, les faire...
Ça vous fait rappeler quoi, ce fouet Didi?
Ah, ce fouet Didi, c'est ma culture, mon enfance, et voilà. Donc on va essayer même davantage de le diffuser un peu plus. pour renouer, redonner la culture aux enfants actuels en France qui ont perdu un petit peu peut-être tout ce qui est notion de culture d'origine.
Comment ça se fait un fois Didi comme ça, il est resté humble, on ne le voit pas souvent.
Ah ben, Fouad Didi, c'est particulier. Fouad Didi, c'est un grand cœur. C'est un monsieur énorme. Il est doué, il joue pratiquement tous les instruments. Du violon, percussion, oud, tous les instruments. Et il reste très accessible aux enfants et aux adultes. C'est du grand cœur, voilà. C'est la personne, elle est comme ça.
C'est-à-dire, heureusement qu'on a quelqu'un qui transmet le patrimoine algérien, quand même. Ouais. C'est l'arabo-andalou.
On vient dériver du manouf.
L'arabo-andalou, c'est un peu de tout. C'est l'arabo-andalou, c'est-à-dire qu'il englobe tout ce qui est du Maghreb en général, en partant du Maroc, Algérie, jusqu'en Tunisie aussi. Et donc, il transmet tout ça. Et c'est vrai que ce qui est important là-dedans, c'est de dire que quand même c'est une grande culture, quoi. C'est une grande culture dans tous les sens, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il se produit en Algérie ou quelque chose?
Oui, et il fait de temps en temps, on l'invite et il est de plus en plus connu. Et donc, on va essayer de mieux faire connaître ce genre musical qui englobe tout le Maghreb et tous les gens de toute origine. Parce que il n'y a pas que les Algériens ou les Marocains, il y a aussi des Juifs qui chantent.
C'est eux qui ont sauvé, qui ont préservé l'arabo-andalou quand même.
Non, préserver c'est trop... ils ont vécu avec les Arabes. Non, c'est que l'arabo-andalou ou le Chaabi se sauvent tout seuls. C'est-à-dire, on a essayé...
Je n'ai pas parlé de Chaabi, j'ai parlé de l'arabo-andalou.
Même l'arabo-andalou, en général, c'est vraiment une culture ancestrale et très riche, que, à la limite, c'est très bien de préserver, mais elle n'a pas besoin de quiconque pour la sauver, mais elle se sauve d'elle-même. Et parce qu'on y revient, moi, j'ai vécu à Alger, j'ai connu toute cette culture. Et après, on y revient, on fait revenir nos enfants. Et nos élèves, maintenant c'est des élèves parce que je suis prof, donc j'inculque ça un petit peu à mes élèves.
C'est plaisir de voir les jeunes comme ça, comme lui, violoniste, vous jouez tous les instruments.
Non, moi je joue de la traversière, du piano et plus jeune, parce que maintenant j'ai 24 ans, j'ai commencé cette musique quand j'avais 5 ans, j'ai fait de la mandoline et de la percussion.
Et vous faites partie de l'école de Fouad Didi ou vous avez fait une autre école?
Non, pour apprendre à la traversière, j'ai fait le conservatoire de Marseille.
Oui, conservatoire. À part le conservatoire, je parle de
Pour la bande à louche, je fais qu'avec Fouad Didi.
Très bien. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi Fouad Didi?
Parce que ça m'intéressait, ça me plaisait, voilà.
Il a tous les goûts.
Oui. Il est très bien.
Et est-ce que vous voyagez un peu avec lui?
Non, pas bon.
Par exemple, c'est Al Busto comme ça, c'est pas moi.
Oui, ça me rappelle ça, voilà.
Ouais.
Ça peut nous rappeler.
Rassembler tous les artistes Chaabi, tout ça.
Ouais, c'est bien. Ouais, pourquoi pas, ouais.
Ouais, faire comme Café Barbès ou c'est pas.
Exactement. Bon, Café Barbès, c'est une très très belle production, hein, donc que j'ai vue ici à Marseille. Ici, Fouad Didi et d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que Fouad Didi, il y a d'autres maîtres aussi. Simplement, il faut, pour faire la lumière, il faut un petit peu peut-être se professionnaliser. C'est ce qui nous manque un peu. Bon, il y a du travail, mais on va y arriver, quoi.
Puisque vous êtes dans ce domaine,
oui.
Vous connaissez, je vois que vous connaissez bien, vous êtes Kemerolo du terroir.
Oui, ben, j'ai grandi.
Pourquoi vous ne créez pas ici un café Belzins ou café comme Paris? Pourquoi ça ne fonctionne pas à Marseille?
Pourquoi c'est pas que ça ne fonctionne pas à Marseille. Marseille, c'est particulier. Moi depuis 75 que je suis marseillais, hein, donc je connais très bien. À Marseille, les informations circulent par petits sauts, on peut dire. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et c'est la richesse de Marseille, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais il faut s'approcher et aller les chercher pour le savoir. Donc ça se fait, mais simplement c'est vrai, la médiatisation comme El Gusto quand même, c'est une réalisation d'une fille qui a été formidable par rapport au documentaire, parce que moi je l'ai vu le film, voilà, parce qu'elle a été achetée un miroir à Alger, elle a rencontré un monsieur, etc. Eh ben, c'est-à-dire que El Gusto, ça reflète un petit peu le quand même la souffrance des artistes algériens, il faut le dire, hein, parce que des artistes on en a, comme dans tous les niveaux, mais simplement, le pays d'origine s'en occupe pas, il n'y a pas de statut, il n'y a rien du tout, alors qu'ici, Fouad Didi, il gagne sa vie avec ça. En Algérie, tu ne peux pas gagner avec ça. Donc, et après, c'est un peu n'importe qui fait n'importe quoi, c'est plus... dans la culture folklore, comme on dit chez nous, ch'tah wardih, et au revoir, quoi. Donc, c'est pas très riche, tout ça, et ça se maintient pas. Mais en tout cas, le El Gusto, pourquoi la force, c'est que ça a été un terroir algérois. Hein, c'est à l'origine, le maître en question, c'est le Hajj Mohamed Al-Anqa, que tout le monde connaît. Et moi, personnellement, j'étais petit, donc je l'ai vu, j'ai rencontré, etc. Et ça, c'est assez particulier à Alger. Et la force, c'est que cette diffusion, elle a été très populaire. Après, donc, on ramène un petit peu le vrai terroir, le grand terroir. Et toute la philosophie au niveau du chant et de la poésie arabe, qui est très riche, maintenant qu'il faut redécouvrir, tout simplement.
Et par exemple, on s'est rencontrés aujourd'hui ici, c'est la fête des enfants, c'est à Verprès, mais quand on voit Fouad Didi là, on...
Moi je le dis honnêtement, il ne faut pas être pressé. Ça fait très longtemps qu'on s'est posé cette question, tous, y compris moi et des amis, à quand? Quand est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire que lorsque on établit des choses avec des fondements solides, c'est-à-dire des écoles. La base, il faut que ce soit les enfants et leur inculquer tout ce qui est culturel, le travail, arriver à l'heure au concert, travailler l'effort parce que quand même c'est du travail, hein, arriver les enfants comme ils jouent là, ça fait 3-4 ans, c'est tous les mercredis qu'ils viennent pendant 2-3 heures et il faut c'est des efforts. Ouais, et c'est vrai que après par la suite, comment savoir les récompenser, comment le savoir, moi j'ai mon fils qui fait du violon chez Fouad Didi, comment ne pas lâcher, comment l'intéresser davantage, parce que bon, il y a d'autres intérêts quand même pour nos enfants, mais bon, les ramener, comment les ramener à cette culture et à quand? Voilà, c'est toute la question, elle est large, elle est là, quoi.
Donc faisons confiance aux enfants.
Aux enfants et à nous aussi, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, de tous ces jeunes. C'est que si on ne leur transmet pas, il n'y aura rien. Hein. Il n'y aura rien, c'est tout. Donc il faut leur transmettre, les écouter, les laisser partir, les ramener, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est très long. C'est très long.
Alors voilà, de Verprès, rappelez-moi votre nom.
Moi, c'est Nadir Ziani. Je suis chez Fouad Didi, ma femme et mon fils y jouent. De l'arabe andalou, et je suis prof au lycée Saint-Exupéry, où je vais essayer, à Marseille, où je vais essayer d'introduire ça aussi. Et alors, je profite, il y a beaucoup de choses via l'Institut de la musique de Marseille, Par exemple, il y a le 9 juin, au Théâtre Sylvain, il y a de l'Afrique, de chant africain, latino-africain, l'arabo-andalou, ce 9 juin. Le 15 juin, aussi, à la Cité de la Musique aussi. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à Marseille quand même, donc voilà.
Merci de nous avoir donné un peu de votre voix.
Merci à vous, merci pour l'intérêt que vous portez à tout ce que font tous les gens dans l'arabo-andalou et le chabi, et aux Marseillais aussi.
Bien sûr, merci voilà. Beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Et tu t'appelles comment?
Mehdi.
Mehdi, ah oui, je me souviens de toi, Mehdi. L'année passée, on a fait un reportage aussi avec...
Khatib.
Khatib, ouais, c'est ça.
Khatib, il a fait le reportage l'année passée avec lui.
Ouais, c'est ça. Exact. Il y aura de toute façon le festival qui s'appellera le VIF édition 3, qui se trouvera après encore une fois, et que ce sera le thème du Moyen-Âge et voilà, tout ce qui fait partie du Moyen-Âge et magie, tout ça. Voilà.
Et Khatib, si je te pose la question, moi, Kamar, animateur Radio Galère, par exemple, la question, une seule. Mm-hmm. Est-ce que tu es content de voir d'autres qui viennent d'autres lycées et collèges vous soutenir?
Bien sûr, parce que c'est pour leur montrer que le harcèlement n'est pas très... C'est pas quelque chose de,
qu'il faut de rigolo.
Aux gens. C'est pas un exemple. C'est pas un exemple qu'il faut donner à certains élèves de la maternelle pour leur montrer un bon exemple. C'est pour ça que nous réunissons aujourd'hui la chaîne humaine de harcèlement. Mm-hmm. Voilà. Et c'est pour faire une cohabitation avec le collège du Pasteur. Voilà. Que nous faisons depuis très longtemps et qu'on a organisé pendant au moins...
Oui, il y aura un spectacle ou quoi?
Je pense pas, non. C'est juste pour dire que le harcèlement n'est pas quelque chose de très bien. C'est comme pratiquement une manifestation, mais qui se fait pas en ville, qui se fait dans le stade. Pour dire qu'on n'est pas content de...
A priori, il faut bouger, là.
Non, non.
Pas bouger.
Alors, ça va aujourd'hui, tu bouges ?
Ouais, j'ai des bus.
T'es content aujourd'hui ?
Allez, t'es là.
Merci.
T'es là.
Attention maintenant, on va sauter.
Salut.
Ça va?
Ça va.
Alors qu'est-ce que tu fais ici au stade de la Verpré?
Je voudrais savoir c'est quoi... Après on est venu ici.
Et pourquoi tu es venu ici?
Je sais pas.
Ah bon, vraiment? Eh bien, avoir quelque chose, tu connais le nom?
Je sais pas.
Quentin, est-ce que tu sais pourquoi on est là?
C'est bien. C'est bien.
Ah ben si c'est bien, tant mieux. Tant que tu... Même si tu ne connais pas le nom.
Allez, vas-y.
C'est compliqué là. Mokhtar, pourquoi est-ce qu'on est là?
Bonjour tout le monde. C'est...
Ça va?
Ah oui, ça va, Mokhtar.
Moi.
Pourquoi est-ce qu'on est là, Mokhtar?
Pour faire tout le tour en escargot.
Oui, mais pour faire le tour d'escargot, pour faire quoi?
Soutenir la main, non?
Oui, mais pour quelle raison on fait tout ça?
S'applaudir, non?
Si je m'abuse, ce serait pas pour le harcèlement par pur hasard?
Ouais.
Ah voilà. Bon ben, merci beaucoup, Mokhtar.
T'es content, Mokhtar, d'ici?
Ouais. Merci.
T'as quel âge, Mokhtar?
17 ans.
Et depuis quand tu es là?
Je sais pas, il y a longtemps.
Ah ouais, bah lui,
bon, comme moi. Ouais. Comme moi.
Ah, pas ça.
Par contre, faut que j'y aille là, avec les maîtres pour la prof du harcèlement.
Non, non.
Il est où, Quentin?
Jean-Catim.
Voilà, vous voulez savoir pour quelle raison vous organisez le non au harcèlement?
Bien, nous voulons sensibiliser tous les élèves du collège, de l'IME, au problème du harcèlement. Donc ça s'adresse à tous les élèves.
D'accord.
Le harcèlement devient un gros problème.
D'accord, et puis? Et puis?
Et donc voilà, donc afin de sensibiliser tout le monde, les gens qui sont concernés ou moins concernés, il faut que tout le monde soit au courant et tout le monde refuse cet état de fait, ce phénomène du harcèlement qui pose vraiment un gros problème dans nos écoles actuellement.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que tout le monde serait d'accord là-dessus? Ben, moi, je le souhaiterais, mais bon, est-ce que tout le monde pourrait être d'accord là-dessus? Ce serait bien.
Ben, il faudrait, parce que c'est un problème d'éducation et de comportement et qu'on n'a pas le droit de nuire aux autres et qu'il faut se comporter, avoir un bon comportement dans la vie, à l'école, de manière à respecter les autres.
Oui, ça c'est vrai, ça c'est dans la vie, c'est vrai ça. Dans la vie, le respect est la clé d'or à tous les gens, quoi. C'est normal. Donc voilà, merci beaucoup, Franck.
N'est pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pour le riche ou bâtard, l'entre-moi et l'usa, sous mon nom et ton nom.
Je suis voyante. Je suis jusqu'à la voyante.
Alors, vous voyez quelque chose?
Si, je vois quelque chose. Je vois une très grande bonté. Très grande bonté.
Merci beaucoup.
Beaucoup de bonté chez vous.
Merci. Et qu'est-ce que vous allez présenter aujourd'hui?
Moi, je suis dans la tente et je lis l'avenir.
Très bien.
Je connais tout le monde qui veut. Il vient à la tente, je lui tire, je lui dis l'avenir.
Très bien, on a besoin de vous.
Et là, je sais, le bébé, il a chaud. Parce que je suis voyante, je sais.
Sur la fin, on voit quand même. C'est pas mignon.
Avec Christophe, on s'occupe des activités sportives, en fait. Voilà.
Au sein de
l'IME, on s'occupe de tous les enfants au niveau de l'EPS.
Et aujourd'hui, vous allez présenter quoi?
Aujourd'hui, nous, on s'occupe du stand de Stackline pour que les gamins puissent essayer.
L'équilibre.
Voilà, tout à fait.
Des futurs funambules.
c'est ça.
Et votre collègue, il s'appelle comment?
Christophe.
Bah, on va le voir.
Ben oui, il faut voir Christophe. Moi, c'était... Ouais. Allez, vas-y.
Bonjour.
Bonjour, Christophe. Cathy, ben, pour le présenter.
Lui, c'est Christophe, le prof de sport.
Alors,
on va lui poser quelques questions.
Voilà.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va, merci. Et toi?
Ça va. Qu'est-ce que vous faites dans le festival Le Vif 3?
Donc, on a mis en place un stand de slackline. Donc, le slackline, c'est une bande d'équilibre qui se tend entre deux arbres. Et ça a été inventé par les grimpeurs, ceux qui font de l'escalade. entre deux voies pour se reposer. Ils ont inventé ça. Ils tiraient une bande entre deux arbres et puis ça leur permettait de c'est un peu une méditation en fait. C'est, ils cherchent leur équilibre, ils essaient vraiment d'être calmes et concentrés pour arriver à se déplacer sur cette bande-là. Voilà, c'était une sorte de, il y a un travail de gainage pour eux, pour les grimpeurs. Donc c'est pas facile, mais c'est super rigolo. Voilà.
Mais est-ce qu'il y en a certains qui y sont arrivés ?
Ah ben, on n'est qu'au début, donc on va bien voir. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui vont y arriver parce qu'ils vont faire ce qu'il faut.
Merci beaucoup, Christophe.
De rien, merci.
Peuple des merveilleuses contrées massaliotes, venez nous rejoindre au soleil, vous allez transpirer avec nous. Venez, venez, venez. Musique maestro. Oh yeah, oh yeah, braves gens, peuple des merveilleuses contrées massaliotes, venez nous rejoindre sur ces merveilleux tapis. Au soleil. Voilà.
Alors vous filmez vous, non?
Ouais.
Un souvenir, vous le gardez?
Ben ouais, je le garde. En plus c'est pour mon petit-fils, c'est pour Jérémy.
C'est ma mascotte.
Ouais, je sais.
Il va prendre le micro tout à l'heure.
Ouais, mais c'est très bien. En plus il adore ça, alors ouais. Je vous dis pas. Là, il va faire des présentations tout le long de l'après-midi aussi, d'après. Voilà. Alors, bon. Ça va bien. Il va avoir une bonne après-midi.
Bien sûr,
pourquoi pas. Ben, bien sûr.
Bravo, on peut l'applaudir et on lance. Ouh. Allez Jacques, on tortille les fesses, allez hop.
Et voilà, on prend un partenaire ou une partenaire et on tourne. Allez, sous le coude. C'est parti. Alors, on trouve des copains et on tourne.
Goûter là, les gâteaux.
Et vous allez faire quoi?
Chanter.
Si j'étais, je suis irrigué.
Il y a la jolie fille là.
Il y a irrigué.
Audrey. C'est qui?
Audrey.
Elle s'appelle comment?
Audrey.
Très bien.
Oui, j'ai irrigué avec Pacra, Bahé, Corinne et moi. Quatre avec moi, d'irrigué.
Et vous avez préparé ça il y a longtemps?
Oui,
quand
j'ai
même.
Préparé ça. À quelques heures.
C'est la voix ténor, la voix?
Oui.
Bonjour. Et lui, vous me présentez?
Maga Portin.
Alors, vous faites quoi exactement là?
Les chiennes.
Très bien. Ça fait longtemps que vous êtes là?
C'est le chien de Julie.
Aujourd'hui, c'est la fête.
Ouais.
Très bien. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Sabinette, le petit elf est demandé.
Estelle, tu viens avec le père là-bas, on fait le petit point. Je me mettrai là.
Oui, tu le mets où, Jean?
Si tu le veux pas, tu le mets au coffre ou à disposition de tout le monde. Ceux qui arrivent, ils peuvent se mettre le casque.
Et aujourd'hui, il y a quoi exactement? Je vous vois avec le déguisement.
C'est le festival de l'IME Verpré. Le thème de cette année, c'est fantastique médiéval.
Très bien, mais voilà. vous représentez quoi comme région? Ou bien c'est toute la France ou des régions ciblées? Je sais pas, la Bretagne ou...
Non, pas du tout, c'est pas du tout par région en fait. C'est plus, vous savez, le thème du Seigneur des Anneaux ou de fantastique, un peu voilà, médiéval, un peu de casque, un peu de tissu, bref.
Moi je vois que le déguisement il est formidable.
Ouais bah merci.
J'arrive pas à reconnaître les animateurs, les éducateurs.
Oui, c'est fait pour qu'on reconnaisse plus les jeunes des animateurs et des éducateurs. Ça va Jérémy?
Tu vas bien quand ça fait bon bas hein? Ouais. Tu es pas marseillais, tu es marseillais?
Jérémy,
oui.
S'il te plaît.
Oui, 2 minutes alors.
Ok. Est-ce que tu peux nous prêter ta voix?
Je prête ma voix pour une seule cruc. Ben, bonjour à tous. Voilà, vous êtes bien sur Radio Galère pour le festival 3e édition. Vous êtes partis, on y va.
Très bien.
Allez, au revoir.
Lui, c'est Oussama, un copain d'enfance que je connais depuis 12 ans, je crois, c'est ça?
Oui, 12 ans.
Alors, Oussama, toi, tu fais quoi comme activité ici?
Moi, à la base, je suis pas lié à mes verpris. Je viens juste en tant qu'accompagnateur pour assister ben, au festival qui aura lieu donc cet après-midi et ici même, voilà.
En même temps, tu viens voir les amis comme Cathy.
Voilà, ça me fait plaisir de venir ici parce que je suis quand même le meilleur ami de Cathy. Il veut que je vienne ici, donc je viens pour lui faire plaisir, pour rencontrer ses collègues. Donc voilà, ça me fait plaisir de venir et puis j'espère qu'on va passer un bel après-midi quand même.
Ben, bien sûr, bien sûr. Et à peu près, qu'est-ce qu'il y a ici comme activité, tout ça?
Je ne sais pas spécialement. Là, a priori, ce qui est par rapport au festival d'aujourd'hui, c'est sur le Moyen-Âge, comme je peux le constater. Et après, je n'en sais pas plus. Je vais découvrir plus durant cet après-midi.
On va découvrir au fur et à mesure.
Voilà.
On fait la surprise.
Voilà.
Rappelle-moi ton nom.
Oussama Tchibourtine.
On est le samedi 6 juin et on se trouve à l'heure actuelle dans un festival, le Vive 3, donc ce qui a été le 2 et le précédent, le cabaret. Et là aujourd'hui c'est plutôt Moyen-Âge tout ça et épéiste, et puis voilà quoi. Mais je trouve que ça a été le meilleur festival qui n'a jamais été depuis le précédent.
Alors ton rôle c'est quoi aujourd'hui?
Bah rien de spécial pour le moment. Tant qu'on me donne pas un poste, ben ça va. Là, j'ai rien à faire pour le moment. Juste à observer à quelques stands, mais ça va.
Ah bah, alors, donc, c'est toi qui vas animer avec le micro pour présenter tous les groupes, les jeunes, parce qu'on les attend maintenant. Ça va être chaud.
Ouais, ça va être chaud, ouais, parce que c'est le meilleur festival, de toute façon.
Alors, comment vous trouvez aujourd'hui cette belle soirée, hein, on peut dire, hein?
Très bien, très bien. Je trouve que... c'est formidable des journées comme ça, il n'y en a pas assez dans l'année. On profite toujours du beau temps, mais l'hiver aussi, on peut faire des fêtes, quoi. Ah, et je dirais qu'une fois par semaine, ça ne serait pas désagréable.
Mais comment vous faites avec ces rappeurs, cette chorale? C'est quand même difficile de travailler avec eux, non?
Assez difficile, ouais. Mais là, au niveau de la chorale, il vaut mieux demander au guitariste, c'est lui qui est en charge de... et le bassiste, quoi. Mais ouais, c'est pas évident. Ouais. Ouais. Mais si tu veux en savoir plus, il faut mieux demander au guitariste, celui-là.
Oui, comment il s'appelle?
Loïc.
Et vous?
Moi, c'est Michel.
Michel, donc vous vous occupez plus de
moi, c'est plus
des instruments,
voilà,
percussions.
Plus percussions, voilà, ouais.
Moi, je vous félicite beaucoup, hein.
Merci, ouais, non, mais
et bon courage.
Ils ont déjà du boulot avant moi en percussion et ils se débrouillent bien. Hein.
Enfin, toute l'équipe quand même.
Ouais. Ils sont vraiment formidables, ouais.
Donc c'est.
Loïc.
Il est breton ou quoi?
Ah, peut-être pas. Demande-lui.
Loïc, alors, comment vous faites avec eux, là?
Ben, écoutez, on essaye de faire un peu comme on peut, mais bon, aujourd'hui, ça a été un peu difficile, on perdait le tempo. Donc, on a un peu joué à l'aveugle. Et
Moi, j'ai rien senti, hein, j'ai rien senti.
Moi, je l'ai senti, comme perdait le tempo. Et... bon, en fait, le principal, c'était d'être là et d'avoir passé une bonne après-midi.
C'était bien,
quand même. C'est ce qui compte le plus pour tout le monde, je crois.
Et comment vous appelez comment?
Je m'appelle. Apapra.
Moi, je vous félicite, hein, les deux, hein, parce que vous chantez très très bien, hein, ça, c'est sûr.
Pourquoi?
Vous appelez?
Brahim.
Brahim. Alors là, pourquoi? Parce que il vaut mieux aller voyager et faire des concerts ailleurs. Hein.
Où? Où?
N'importe où. Mais où, Paris, en Londres, aux États-Unis, pourquoi pas?
Moi, c'est à Marseille.
Tu veux rester à Marseille?
Ouais.
Tu veux pas voyager?
T'es pas encore.
Bah, t'as une belle voix. Tu es un rappeur ou tu es quoi? Tu fais slameur?
Moi, c'est un rappeur.
Et t'aimes le slam aussi?
Oui, à tout.
Très bien. Ben, vraiment, c'était sympa.
Ah, merci, gentil.
Et combien de fois vous chantez là?
Ok, mon chanteur, le chanteur et la chanteuse.
Ah, la chorale. Tout.
Oui.
Mais c'est vraiment félicitations. Hein.
Merci.
Et bon courage.
Merci.
Voilà, Ruben, dernier mot parce que c'est. Vous travaillez depuis tout à l'heure, je voulais pas vous déranger.
Là-bas, la cri.
Là?
La cri.
C'est quoi la cri?
La musique.
Non, je sais pas, c'est le DJ, il est là.
Le mot de la fin.
Hein?
Le mot de la fin.
Eh bien, c'était un grand moment de bonheur et de joie partagée. Et ça nous a rempli nos cœurs d'amour et c'est l'essentiel.
Aujourd'hui, c'était petit, mais c'était très, très fort.
Voilà, moi, j'ai trouvé ça très beau. Bel effort collectif. On a eu du chance avec la météo. Et c'était un super beau moment, quoi.
Bah, merci, Ruben. Et
merci à toi.
Bon vacances, bon vent. Je vais voir comment il s'appelle. Ouais. Copain, là.
Fred.
Ah, Fred. Fred.
Fred, interview.
Comme j'ai dit à Ruben, et le mot de la fin, c'est les vacances.
Le but du jeu, c'est d'être heureux, comme dirait le collègue Gary Gréou.
Merci Fred.
Le but du jeu, c'est d'être heureux.
Vous allez passer où les vacances?
Les vacances? Je vais, je sais pas si je vais partir en vacances. Mais en même temps, on est tellement bien ici que j'ai l'impression d'être en vacances tellement c'est beau où on habite. C'est ça, donc ce sera dans la région, mais on va se régaler.
Merci pour tout le travail que vous faites ici à Verprêt. Hein.
Et merci à toi surtout de venir soutenir les bonnes initiatives. Camar,
c'est normal.
Ça fait plaisir, merci.
Au revoir.
Des rosettes magras, tous toqués n'avaient tout. Et c'était ce disque saoulé, de manger mes nôtres. Mourir à ce pas d'ici, que le vieux savait bailler les autres. À la
manger. Magnifique troubadour, venez devant, vous allez poser les micros, venez avec nous. Oui, alors une certaine Dame Pépin des Hautes-Alpes est attendue par Farandoline. Venez, Dame Pépin, elle est là, elle est radieuse. Elle vit sa vie au milieu des plantes et des fleurs exotiques. Elle est là dans les Hautes-Alpes suisses. Elle enchante les farfadets et les elfes de tous bords. Venez, 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 Dame Pépin. Approchez-vous, alors regardez, venez ici, vous allez démarrer la farandole avec Farandoline. Mettez-vous en bas, on va lancer une musique et on va tous danser une belle farandole. Alors, regarde, je t'aide, parfait, allez-y, descendez, regardez, descendez doucement, vous allez être avec Marianne. Attention, un grand cercle, une grande ligne humaine se crée devant nos yeux ébahis. Venez mesdames et messieurs, venez pour tous ceux qui veulent participer à la farandole. On attend tous les pochetrones au bout là-bas. Venez, venez nous rejoindre.
Johnny, alors là, vous avez fait un tapage. Hein. Aujourd'hui, comment vous trouvez la soirée?
On a besoin de monde. Pour l'instant,
ils sont cinq. Je suis fier de moi et voilà.
Chers amis, venez vous approcher vers les tapis, vers la scène. Venez nous rejoindre. Allez, voilà, ça y est, on commence à avoir un peu de monde.
En mu, donc on n'était pas volé, ils sont en volé.
Ça veut dire qu'ils changent, c'est quoi? C'est leur poil, c'est leur plume?
Ils changent toutes leurs plumes.
Ils changent toutes leurs plumes.
Et à partir de la mi-août, on les remuscle, parce qu'évidemment les oiseaux n'ont pas volé. Ouais. C'est comme des athlètes. Il faut les rentraîner, il faut les muscler. Et pour que à septembre, octobre, de octobre d'ailleurs, que les oiseaux puissent chasser. Sinon, ils n'y arrivent pas.
Et ils chassent quoi alors?
Lapins, faisans, lièvres.
Et avec le chien, en complicité avec un chien?
Un chien. Ça, c'est...
Le chien, il repère. Et lui, il est au-dessus et il pense quand le chien, il l'a débusqué.
Parfois même, il m'est arrivé de chasser. j'étais spectateur. C'est-à-dire que l'entrebuse que j'ai, bah, elle connaissait le chien. Dès que le chien l'envoyait, la buse, elle partait, elle se mettait au-dessus du chien et chassait tous les deux. Et moi, j'étais là. Ah ouais, c'est bien, c'est un
psychologue de formation et je suis d'origine espagnole. Je suis arrivée ici à Marseille en 2007 et c'est complètement par hasard. En fait, je voulais bien apprendre le français et c'est grâce à ça que j'ai demandé un stage avec Médecins du Monde. Et c'est la personne responsable de l'équipe qui m'a donné l'opportunité de travailler en tant que stagiaire dans une équipe communautaire de psychiatrie. Et de 2007 à 2010, je suis restée, j'ai occupé différents postes. Et pendant 6 mois, j'ai fait un stage en tant que psychologue. Et après, je suis restée presque un an et demi en tant que chercheuse dans une équipe de recherche action participative qui était axée sur les rétablissements des personnes souffrant d'une maladie mentale sévère.
Alors, explique-nous cette maladie, c'est quoi exactement ?
Et quand on parle d'une maladie mentale sévère, en général, on parle de la schizophrénie et des troubles bipolaires. C'est surtout, depuis que je suis à Marseille, c'est surtout avec ce type de patients que j'ai travaillé. En plus, avec un profil très particulier, parce que ce n'est pas uniquement des personnes, on va dire, malades, c'est aussi des personnes qui ont un parcours de vie dans la rue, ça veut dire des SDF. Actuellement, depuis à peu près un mois, et je travaille dans une association qui s'appelle les Nomades Célestes. Et c'est ce qu'on appelle un groupe d'entraide mutuelle. Et l'objectif principal, c'est lutter contre l'isolement des personnes qui souffrent d'une maladie mentale sévère. L'objectif, c'est que les personnes passent la journée avec nous pour éviter la solitude et tous les problèmes qui peuvent être liés à ces situations de solitude. Et parfois, c'est un peu compliqué. Et il faut dire aussi que j'ai la chance que je connais presque toutes les personnes qui viennent depuis 2007. Et ça veut dire que je suis assez bien respectée et bien reconnue par eux. Mais c'est vrai que parfois c'est une situation un peu compliquée parce que pour le moment je suis tout seule Il faut faire l'accueil, il faut mettre en place les activités. Et parfois, il y a des personnes qui vont être un peu plus excitées. Et aussi, il faut gérer ce type de situation. Mais bon, pour le moment, il faut dire que je suis arrivée. Les gens qui viennent dans l'association, comme j'ai dit avant, c'est un profil très particulier. Ce n'est pas uniquement des personnes qui souffrent d'une maladie mentale. Et c'est aussi des personnes avec un parcours de vie dans la rue. Et parfois aussi avec un abus de certaines substances. Ça peut être l'alcool, ça peut être l'héroïne, etc., etc. Parce qu'ici, à Marseille, il y a des autres gens, groupes d'entraide mutuelle, mais avec un type de population complètement différent. Nous, c'est vraiment un profil très, très, très particulier.
C'est-à-dire
et, comme je... C'est des cas assez compliqués. Et c'est des gens qui ont eu une grande souffrance.
Voilà, le documentaire est terminé. Donc, lors de la fête de fin d'année, Radio Galère a déjà diffusé 10 interviews mettant en lumière l'insertion professionnelle et les actions du centre. Donc, vous pouvez écouter tous les podcasts sur Radio Galère, émission Haraga, H-A-2-R-A-G-A-S. Je vous dis au revoir et à jeudi prochain. Ciao, ciao, ciao. Abqa ala khair ya qbou. To be the bad man, to be the sad man, behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dream, as my conscience seems to be, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind.